à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 13 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Mohamedou Oumfa.
On commence par le sommaire.
Mali, la CEDEAO exige des élections en février. L'organisation régionale brandit de nouvelles sanctions contre la junte.
En Éthiopie, les rebelles tigréens reprennent la ville de Lalibela. Cette localité abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La justice française se prononce aujourd'hui en appel sur la peine à l'encontre de la star congolaise Kofi Olomide, accusée d'agression sexuelle.
Tornade ici aux États-Unis, les recherches continuent, mais l'espoir s'amenuise. Le bilan total se monte désormais à au moins 94 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
Le 60e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu hier à Abuja. Les dirigeants de la région insistent sur la tenue des élections au Mali le 27 février, faute de quoi l'organisation va imposer de nouvelles sanctions à partir de janvier. Retrouvons à Abuja notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba.
Les chefs d'État africains réunis à Abuja se sont dit préoccupés de la durée des transitions au Mali et en Guinée. Si le 1er janvier prochain, il n'y a pas d'engagement ferme des dirigeants de la transition malienne pour tenir les élections présidentielles fin février, l'organisation passera aux sanctions. C'est ce qu'a annoncé à la presse à l'issue du sommet le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou. Suspendu par la CEDEAO et des sanctions qui pèsent sur les dirigeants du CNRD, la chaise de Conakry était restée vide. Les sanctions individuelles sont aussi maintenues. La CEDEAO avait gelé les avoirs financiers et interdit de voyage toute personne, entravant le processus de retour à un pouvoir civil par la tenue le 27 février des élections présidentielles. Les chefs d'État condamnent aussi la lenteur dans les processus de sortie des crises en Guinée. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan devra retourner bientôt dans les prochains jours à Bamako pour présenter le message des chefs d'État au Mali. En outre, la CEDEAO maintient ses sanctions contre la junte en Guinée. L'organisation régionale exige un calendrier de retour des civils à la tête du pays.
Les rebelles tigréens ont repris dimanche le contrôle de Lalibela, ville emblématique du nord de l'Éthiopie, qui abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement a annoncé la prise de Lalibela il y a moins de deux semaines. Le point avec Lionel Gaïma.
Des habitants joints dimanche après-midi par l'AFP ont affirmé que des combattants du Front de libération du peuple du Tigré étaient rentrés dans cette ville de la région de l'Amara. Ils sont dans le centre-ville, il n'y a plus de combat, a déclaré un habitant. Un autre a affirmé, ils sont revenus, ils sont déjà là. À Lalibela dimanche, la plupart des gens ont peur, a raconté un des habitants interrogés. Certains s'enfuient, a-t-il dit. Plus tôt dans la journée de dimanche, un communiqué de la direction militaire du TPLF a annoncé que ces combattants avaient mené des contre-offensives globales en plusieurs points. Le 1er décembre, le gouvernement avait annoncé avoir repris Lalibela, ville célèbre pour ses églises monolithiques du XIIe siècle, qui étaient passées sous contrôle des rebelles en août. La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région septentrionale du Tigré afin d'en destituer les autorités locales issues du TPLF.
Le gouvernement libyen s'est dit dimanche prêt à la tenue de l'élection présidentielle programmée pour le 24 décembre et a présenté des mesures devant garantir le bon déroulement d'un scrutin entouré de fortes incertitudes.
Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens et les efforts pour soutenir la haute commission électorale. Nous avons l'opportunité de faire du 24 décembre un jour historique, a affirmé Ramadan Abdoujna, qui assure l'intérim à la tête du gouvernement depuis que le premier ministre Abdelhamid Beba s'est porté candidat à la présidentielle.
La star de la rumba congolaise Kofi Olomide sera fixée ce lundi sur son sort. La cour d'appel de Versailles, près de Paris, se prononce dans une affaire de violence sexuelle. La justice française l'accuse d'agression sexuelle et séquestration sur quatre de ses ex-danseuses lors de ses tournées en France. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pendant le procès qui s'est tenu fin octobre, le parquet général a requis 8 ans de prison contre le franco-congolais de 65 ans, demandant de revenir sur le premier jugement et de reconnaître coupable cet homme puissant, star international. En 2019, un tribunal l'avait condamné à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur une des jeunes femmes déclarée mineure au moment des faits. Elle avait relaxé des poursuites concernant les 3 autres. La star n'avait pas assisté à son procès. Mais contre toute attente, le chanteur s'est présenté à son procès en appel à Versailles. À la barre, il s'est défendu des accusations en fustigeant les mensonges des parties civiles. « Ce sont des récits concertés, un complot pour casser ma carrière », a-t-il affirmé devant les plaignantes. Les 4 femmes congolaises qui ont déposé plainte entre 2007 et 2013 accusent Koffi Olomidé de les avoir enfermés dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises et de les avoir forcés à avoir des relations sexuelles avec lui de façon régulière pour certaines.
L'Afrique du Sud a rendu dimanche un hommage officiel à son dernier président blanc, mort le mois dernier à 85 ans. Frédéric de Klerk, libérateur de l'icône Nelson Mandela aux yeux du monde, est perçu comme un homme politique indissociable des crimes de l'apartheid dans son pays.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement. Il souffre de symptômes légers de la maladie. Monsieur Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir mal après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en hommage à l'ancien président Frédéric de Klerk, a déclaré la présidence dans un communiqué tard dans la soirée. Aucune information n'a été communiquée précisant s'il avait été contaminé par le nouveau variant Omicron.
Toujours en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, en liberté conditionnelle, a lancé dimanche la vente de son livre intitulé « Jacob Zuma parle » qui annonce « Remettre les pendules à l'heure ». Pour ses années à la présidence, englué dans les scandales, l'ancien chef d'État a été poussé à la démission en 2018.
Une commission est depuis chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années au pouvoir. L'ex-président n'a cessé de crier à la persécution et dénoncer une justice qui tente de lui faire des procès politiques. Le livre de Jacob Zuma, écrit à la 3e personne, contient des témoignages d'anciens proches.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États américains du Missouri, de l'Illinois, du Tennessee, de l'Arkansas et surtout du Kentucky tentent de se relever après avoir été frappés par des tornades qui ont fait au moins 94 morts. Le gouvernement fédéral promet d'assister les victimes et les États touchés. Gabi Dorsil.
Des fouilles désespérées se sont poursuivies dimanche pour retrouver d'éventuels survivants sur le site d'une usine de bougies dans le Kentucky, l'état le plus touché par cette tornade. Quelques 110 employés travaillaient dans l'usine vendredi soir pour répondre à la demande de la période des fêtes, quand la tornade a tout détruit. Plusieurs dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Ce phénomène météorologique exceptionnel a traversé 6 États, le Kentucky, l'Arkansas, l'Illinois, l'Indiana, le Mississippi, le Missouri, l'Ohio et le Tennessee, y laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. Mais c'est à Mayfield, dans le Kentucky, que celles-ci ont été les pires. Les églises anciennes ont été détruites et le tribunal a été gravement endommagé. Ces États ont été traversés par l'une des pires séries de tornades de l'histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden. Les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé à être déployées sur place. De l'étranger ont afflué des messages de sympathie. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi présenté dimanche ses condoléances sincères, le pape adressant lui ses prières en faveur des habitants du Kentucky depuis la place Saint-Pierre.
Le président haïtien Jovenel Moïse était en train de dresser une liste de responsables politiques et d'hommes d'affaires liés au trafic de drogue avant son assassinat en juillet, a rapporté samedi le New York Times, qui ajoute, selon l'agence Reuters, qu'il prévoyait de donner les noms au gouvernement américain.
Jovenel Moïse a été tué par balle lors d'un raid nocturne à son domicile par un groupe d'hommes armés qui incluait d'anciens soldats colombiens. Les autorités haïtiennes ont arrêté 45 personnes, mais n'ont encore inculpé personne pour le meurtre.
La Nouvelle-Calédonie a massivement voté non à l'indépendance dimanche lors du dernier référendum d'autodétermination. Une élection marquée par une abstention record après l'appel des indépendantistes à boycotter cette consultation censée clore un processus de décolonisation entamé il y a plus de 30 ans dans cet archipel français de l'océan Pacifique.
L'Iran a une dernière chance de négocier sérieusement pour sauver l'accord sur le nucléaire, a prévenu dimanche la chef de la diplomatie britannique au terme d'une réunion du G7 qui a aussi mis en garde la Russie contre une invasion de l'Ukraine. Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, par l'intermédiaire notamment des Européens, ont repris fin novembre à Vienne pour tenter de ressusciter l'accord de 2015 censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique.
Le premier ministre israélien Naftali Bennett a entamé dimanche la première visite officielle d'un dirigeant israélien aux Émirats arabes unis dans l'objectif de renforcer les liens avec les pays du Golfe dans un contexte de tensions régionales accrues liées aux négociations en cours sur la relance de l'accord nucléaire avec l'Iran.
Face à un raz-de-marée d'Omicron qui déferle sur le Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal avec l'objectif de proposer une troisième dose de vaccin contre le COVID-19 à tous les adultes d'ici fin décembre.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Sénégal, la production d'arachides sera moins importante en 2021-2022. La campagne, qui a débuté le 25 novembre dernier, devrait se solder par une récolte de 1,6 million de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes par rapport à l'exercice précédent. Selon Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, cette situation s'explique par le mauvais hivernage qui pénalise le rendement de la culture. La Côte d'Ivoire va devenir un producteur important de pétrole en 2023, a affirmé vendredi le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire avait annoncé en septembre dernier la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes à l'est du pays. Ces hydrocarbures seront exploités par le géant pétrolier italien Eni. Les députés béninois ont voté la semaine dernière le nouveau code général des impôts destiné à instaurer une fiscalité plus attractive dans le pays. Les nouvelles règles de procédure préconisées assurent non seulement la transparence, mais aussi la protection du contribuable, affirment les autorités. D'après le gouvernement, le nouveau texte permet aussi de corriger les incohérences dans les règles d'imposition qui étaient une source d'évasion fiscale et d'optimisation exagérée.
Place maintenant à la page d'espoir avec Élisée Oumpatine. Élisée, on a du football à la une et notamment la Coupe arabe des nations de la FIFA à Doha au Qatar.
Oui, et trois équipes africaines ont rejoint le dernier carré à l'issue des quarts de finale. Qualification décrochée de haute lutte par l'Algérie contre le rival le Maroc. 2 buts partout au bout des 120 minutes et 5-3 après la séance des tirs au but. Les Fenecs affronteront en demi-finale le pays hôte le Qatar, tombeur 5-0 des Émirats arabes unis. L'autre demi sera 100% africain et elle opposera la Tunisie, vainqueur 2-1 d'Oman à l'Égypte qui a écarté la Jordanie sur la marque de 3-1 après prolongation.
On revient sur le continent avec le troisième tour des qualifications pour le mondial féminin des moins de 20 ans, Costa Rica 2022.
Tout à fait. Et le Maroc compose son billet pour le tour suivant. Victoire spectaculaire contre les Gambiennes 6-0. Les jeunes Lyonnes, déjà vainqueurs 3-1 à l'aller à Banjul. Ça se poursuit vendredi prochain avec 2 matchs. Éthiopie-Botswana, avantage 3-1 à l'aller pour les Éthiopiennes. Et puis l'Afrique du Sud qui a un retard de 1 but à remonter contre l'Ouganda. Pour rappel, le Cameroun et le Nigeria se sont déjà qualifiés pour le 4e tour après le retrait du Gabon et du Congo.
Du basket également à Yaoundé au Cameroun.
Et durant une semaine, le dernier tour des éliminatoires de la zone ouest de la Basketball Africa League, dont la phase finale se jouera à Kigali au Rwanda en mars prochain. 6 équipes engagées pour 3 places qualificatives. Et début réussi pour les FAP du Cameroun, vainqueurs des Ivoiriens de la SOA 83-64. Et puis, après leur défaite inaugurale, les Congolais d'Espoir Foukache se sont repris hier en disposant des Guinéens de Slack 104-89.
Du basket également ici aux États-Unis avec les résultats de la NBA. Les Bucks de Milwaukee ont dominé les Knicks de New York 112-97. Les Nets de Brooklyn ont fait pareil avec Detroit 116-104. Les Mavericks de Dallas ont battu Oklahoma City 103-84. Les Lakers de Los Angeles ont pris le meilleur sur Magic d'Orlando 106-94. Minnesota s'est imposé face à Portland 116-111 et San Antonio a battu la Nouvelle-Orléans 112-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les assises nationales de la refondation qui ont démarré samedi au niveau des communes ont pris fin dimanche. Les différentes couches sociales ont travaillé sur 13 thématiques proposées par les autorités du Mali. Parmi ces thèmes, il y a les questions politiques et institutionnelles, la gouvernance électorale, la défense et la sécurité, la souveraineté et la lutte contre le terrorisme. Si dans certaines communes on a pu tenir ces rencontres, d'autres ont été délocalisées et certaines purement annulées à cause de l'insécurité. Mamoudou Bokoum, l'un de nos correspondants au Mali, nous en dit plus.
Sur les 15 communes du cercle de Mopti, 10 ont pu tenir leurs assises sur la refondation, comme l'a expliqué le sous-préfet central de Mopti, Issa Pléya.
Avant le démarrage des travaux, il a été élaboré la cartographie des communes où on peut tenir les assises. Et c'est à la suite de cette cartographie que 10 communes sur les 15 ont été retenues. Dans ces 10 communes, les travaux des assises nationales se déroulent normalement sans incident. Les communes qui n'ont pas été retenues, il y a la commune de Djaloubé, la commune de Soy, la commune de Ouroumoudi, la commune de Koubaï et la commune de Sassalbé.
Les femmes ont répondu à l'appel pour faire entendre leur voix. Konare Habibatou Sissé est femme leader à Mopti.
J'ai remarqué que les femmes ont beaucoup participé. Surtout, il y a eu un débat très fructueux. On dit bien la refondation du Mali. Surtout, on a pris compte des problèmes des femmes, des jeunes et des enfants. Et puis on a tenu compte aussi de l'aspect de l'insécurité de la ville de Mopti. Ça a été vraiment un débat, surtout là où je suis même arrêté derrière le fleuve. Nous, les habitants de la ville, on ne peut pas traverser même le fleuve, aller derrière. On a même pris compte de tous ces problèmes.
La situation d'insécurité a mis à mal la tenue de ces assises, notamment dans plusieurs régions du centre et du nord du Mali. C'est le cas dans la région de Mopti, où plusieurs localités n'ont pas pu tenir leurs rencontres. Par exemple, à Bandiagara, sur les 21 communes, 8 ont tenu leurs assises, tandis qu'une commune seulement sur 16 a pu organiser ses rencontres. Rencontre de la refondation à Koro et aussi à Yuwaru. C'est le contraire à Guinée, où seulement une seule commune qui n'a pas pu tenir cette mèche communale sur les 11 qui comptent le cercle. Quant au cercle de Bankasa, 5 sur 12 ont répondu à l'appel, pendant que les 15 de Douanza ont toutes tenu leur ANR avec 12 en délocalisation. Une question revient sur toutes les lèvres. Comment recueillir les avis de ceux qui n'ont pas pu tenir ces assises au niveau communal? Le sous-préfet central de Mopti tente de répondre.
Les assises, c'est à 4 niveaux. Donc après ces phases communales, la phase locale va démarrer très prochainement. Et à ce niveau, toutes les préoccupations de l'ensemble de ces localités seront prises en compte.
À noter que les assises du cercle de Ténénkou devront démarrer ce lundi, nous confirme un élu local. Et elles devront concerner 6 des 10 communes du cercle, a-t-il conclu. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, la coordination des actions citoyennes Wakit Sama est vent debout pour exiger la modification de la charte actuelle de la transition pour un véritable dialogue inclusif. Après plusieurs demandes de manifestations pacifiques refusées par les autorités de transition pour non-respect d'itinéraire, elle a été finalement autorisée ce week-end à N'Djamena. Encadrée par les éléments de la police nationale et des gardes nomades, la marche s'est déroulée sans heurts. André Kouadmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, fait le point.
Sur une distance de près de 2 km, les marcheurs ont marqué 3 arrêts chantant l'hymne national. Un premier arrêt au carrefour dans un quartier populaire de N'Djamena, un deuxième devant la radio nationale tchadienne et un troisième arrêt devant l'IFT, Institut français du Tchad. Une manière pour eux de dénoncer ce qu'ils voient comme une ingérence de la France dans la politique tchadienne. Younous Mahadir, syndicaliste dans l'âme, cite un révolutionnaire tunisien pour galvaniser les marcheurs en ces termes.
Le jour où le peuple décidera de braver le destin, il est obligé d'éclaircir les ténèbres, de rompre la chaîne de l'esclavage. Mais celui qui ne va pas suivre cette voie va périr sans histoire.
Pour Barka Michel, l'un des porte-parole de Wakit Tama, la principale revendication du Tchadien avant la tenue de cette messe politique, c'est la modification de la charte actuelle de la transition.
Cette charte-là, il n'y a que le président qui nomme tout qui destitue tout et qui programme ce qu'ils veulent. Et qui dit qu'après la transition, qu'ils en iront, mais on leur dit, écrivez ça sur la charte. On demande à ce qu'ils modifient cette charte. Ça ne prendra même pas une semaine.
S'agissant de la révision de la charte de la transition exigée par Wakitama avant le dialogue, le ministre de la Communication, Abdraman Koulamala, donne la position du gouvernement.
Je l'ai dit plusieurs fois en tant que porte-parole du gouvernement, ce n'est pas une question prioritaire dans cette phase de transition. La charte de transition joue le rôle de loi fondamentale qui est notre constitution. On ne va pas s'amuser tous les 24 heures à changer la charte de transition parce que telle ou telle personne ne se retrouve pas là-dedans.
Pour Adam Soumaïn, membre de Wakitama, il y a des choses qui ne sont pas négociables.
30 ans de nouveau au pouvoir, c'est non. Ça suffit. Idriss Déby a fait 30 ans, Mamadou Déby n'en fera pas. Deuxième chose, le dialogue ne se passe pas n'importe comment. S'il le fait pour conserver le pouvoir, c'est son problème. La fenêtre l'attend. Il compte sur les Français pour rester. Eh bien, ici, là, c'est la terre des Tchadiens. C'est notre pays.
Félix Martin Kotiga, président du parti Rassemblement pour la démocratie et le socialisme au Tchad, estime que la place des militaires est dans la caserne.
La mission des militaires, c'est la sécurité. Ils abandonnent leur mission pour laquelle ils sont formés pour s'occuper des affaires politiques. Mais quel paradoxe!
Docteur Succès Massara, président du parti Les Transformateurs, exige que justice soit faite aux marcheurs tués lors des précédentes manifestations pacifiques.
Nos frères qui ont été abattus le 27 avril, le 8 mai et les jours suivants, jusqu'à présent, jamais on a identifié un seul des auteurs. Mais vous avez vu, lorsque les gens sont allés attaquer la maison d'un général, vous avez vu la vitesse avec laquelle ils ont identifié les auteurs. Ça veut dire quoi? On est en train de dire aux Tchadiens qu'il y a deux catégories de Tchadiens. Est-ce qu'il y a des Tchadiens dont la vie n'importe pas?
André Kodouma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Bénin, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, subit les effets néfastes des changements climatiques, dont les manifestations se traduisent par les inondations dévastatrices, l'érosion côtière et les caprices météorologiques. Chaque année, la mer avance. La question préoccupe les autorités. Comment les Béninois appréhendent-ils la question des changements climatiques? Élément de réponse à travers ce reportage de Ginette Feuradandé à Cotonou.
Les changements climatiques représentent une menace majeure au développement durable. Le Bénin, ayant des zones côtières de faible évaluation et élevation, verra disparaître au fil des temps le tiers de son littoral en raison de l'élévation du niveau des mers si rien n'est fait. D'ailleurs, les populations situées le long des côtes voient pour certains le danger venir.
Et les enjeux environnementaux chez moi, ça se remarque beaucoup plus par la montée de la mer, qui fait qu'on assiste à un déménagement incessant des populations de la côte, ce qui entraîne des sans-abri parfois et même entraîne à la délinquance.
Nous avons trop souffert. Souvent, l'eau vient nous surprendre jusque dans nos chambres. Nous déplaçons nos bagages de la chambre et nous restons pendant plus de 2 semaines ailleurs. Il faut attendre que l'eau parte pour revenir. Nous sommes conscients du danger que nous encourons en restant encore ici. Mais c'est parce que nous n'avons pas les moyens que nous sommes encore ici.
Le climat change. La planète chauffe et il faut que nous prenions conscience. Nous, jeunes et organisations de la société civile béninoise, sommes engagés à continuer de plaider pour une justice climatique en faveur des communautés vulnérables.
Aristide Clican et sa famille résident encore dans leur appartement fragilisé chaque nuit par les vagues de la mer. Ils savent qu'ils doivent partir, mais sans une alternative, ils préfèrent s'accrocher.
L'érosion est un combat de tous les jours. À l'arrivée, et dans cette maison, j'étais en 12e position. Aujourd'hui, je me retrouve et la dernière maison, ben avant moi, et d'autres sont partis dans la mer.
Le Bénin dispose depuis 2018 d'une loi sur les changements climatiques. Ce texte de loi dénote de la volonté des autorités à prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont le peuple béninois pourrait être victime à court, moyen et long terme. Un comité pour le changement climatique a été mis sur pied pour coordonner les actions dans ce domaine. José Tonato est le président de ce comité.
Le Comité national sur le changement climatique a pour mission la coordination au plan national de la mise en œuvre des plan d'action sectoriel relatif au changement climatique. Il est chargé, entre autres, de suivre et d'appuyer la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de tous ses instruments juridiques additionnels. impulser et promouvoir les activités relatives à la mise en œuvre des directives politiques des programmes mondiaux, régionaux et nationaux de gestion des changements climatiques.
Même si la question des changements climatiques n'est pas bien perçue par tous les Béninois, le gouvernement se donne pour mission d'y parvenir à travers des séances de sensibilisation et de communication. De Cotonou, c'est le Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, c'est un illustre footballeur du pays qui va désormais diriger la Fédération nationale. Samuel Eto'o a été élu samedi par 41 voix contre 31 au président sortant de la FECAFOOT, Seydou Mbombo Njoya. L'élection de Samuel Eto'o est intervenue au terme d'une assemblée générale élective particulièrement suivie de Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jelintap.
Ce qui est organisé là, c'est le fraude, et vous le savez.
De la tension dans l'air, Samuel Eto'o, peu avant l'ouverture de l'Assemblée générale élective, conteste auprès de la commission électorale une tentative de fraude du camp adverse.
Tous mes délégués vont s'asseoir d'un côté, et si les autres veulent s'asseoir de leur côté, je n'ai pas de problème. À Douala, toutes les élections que nous avons faites, c'était par ordre alphabétique. Nous étions assis comme nous le souhaitions.
Finalement, la doléance de Samuel Eto'o est admise par la commission électorale.
La commission électorale de la FECAFOOT vous souhaite la bienvenue dans cette salle.
Dans une salle attenante, les partisans des deux principaux adversaires suivent les travaux qui sont retransmis en direct à la chaîne de télévision nationale. Seydou Mbombo Njoya, le président sortant, et Samuel Eto'o fils s'affrontent après le désistement de cinq autres candidats.
Eto'o fils, Samuel.
Le suspense du décompte des voix prend fin lorsque le candidat Eto'o obtient la 38e voix, synonyme de victoire. Son camp explose de joie. Avec 31 voix contre 43 pour l'ancienne star du football camerounais, le président de la FECAFOOT sortant quitte la salle. Mais Seydou Mbombo Njoya reste fair play.
Je félicite mon adversaire pour sa victoire. Je lui souhaite bon vent et que ça puisse être une nouvelle ère pour le football camerounais.
L'onde de la victoire de Samuel Eto'o traverse toute la capitale. Des centaines de badauds affluent vers le lieu où se tient l'Assemblée générale, mais ils sont tenus à distance par un impressionnant dispositif de sécurité.
Il a tout donné pour ce pays, Eto'o. Donc c'est une façon de lui faire comprendre qu'on est là avec lui.
Tout le peuple camerounais qui attendait cette victoire depuis pour le changement de notre football.
C'est aux premières heures de la journée de dimanche que les travaux de l'Assemblée générale élective vont s'achever, avec une femme comme première vice-présidente du nouveau comité exécutif. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football fait alors sa première déclaration à la presse, Samuel Eto'o.
Ce 11 décembre est un grand jour pour le football camerounais. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Par ce vote, les délégués ont fait le choix de donner une chance au projet que j'ai présenté à tous les amoureux de notre sport, à savoir redonner au football camerounais toute sa grandeur. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs que nous sommes.
Sous des larmes d'émotion et acclamations de ses sympathisants, Samuel Eto'o se retire. Il est le 17e président de la Fédération camerounaise de football. Yaoundé, Emmanuel Jundap, VOA Afrique.
Ce sera tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Mohamed Oumfa, la mise en onde Lionel Gaïma et à la technique Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.